Le dîner était fort bon, et chacun s'extasiait. Monsieur Walter mangeait comme un ogre, ne parlait presque pas, et considérait d'un regard oblique, glissé sous ses lunettes, les mets qu'on lui présentait. Norbert de Varenne lui tenait tête et laissait tomber parfois des gouttes de sauce sur son plastron de chemise. Forestier, souriant et sérieux, surveillait, échangeait avec sa femme des regards d'intelligence, à la façon de compères accomplissant ensemble une besogne difficile et qui marche à souhait. Les visages devenaient rouges, les voix s'enflaient. De moment en moment, le domestique murmurait à l'oreille des convives. Corton, Château Larose. Duroy avait trouvé le Corton de son goût, et il laissait chaque fois emplir son verre. Une gaieté délicieuse entrait en lui, une gaieté chaude, qui lui montait du ventre à la tête, lui courait dans les membres, le pénétrait tout entier. Il se sentait envahi par un bien-être complet, un bien-être de vie et de pensée, de corps et d'âme. Et une envie de parler lui venait, de se faire remarquer, d'être écouté, apprécié comme ces hommes dont on savourait les moindres expressions. Mais la causerie qui allait sans cesse, accrochant les idées les unes aux autres, sautant d'un sujet à l'autre sur un mot, un rien, après avoir fait le tour des événements du jour et avoir effleuré, en passant, mille questions, revint à la grande interpellation de M. Morel sur la colonisation en Algérie. M. Walter, entre deux services, fit quelques plaisanteries, car il avait l'esprit sceptique et gras. Forestier raconta son article du lendemain. Jacques Rival réclama un gouvernement militaire avec des concessions de terres accordées à tous les officiers après 30 années de service colonial. « De cette façon, disait-il, vous créerez une société énergique, ayant appris depuis longtemps à connaître et à aimer le pays, sachant sa langue et au courant de toutes ces graves questions locales auxquelles se heurtent infailliblement les nouveaux venus. » Norbert de Varenne l'interrompit. « Oui, ils sauront tout, excepté l'agriculture. Ils parleront l'arabe. Mais ils ignoreront comment on repique des betteraves et comment on sème du blé. » Ils seront même forts en escrime, mais très faibles sur les engrais. Il faudrait, au contraire, ouvrir largement ce pays neuf à tout le monde. Les hommes intelligents s'y feront une place. Les autres succomberont. C'est la loi sociale. Un léger silence suivit. On souriait. Georges Duroy ouvrit la bouche et prononça, surpris par le son de sa voix, comme s'il ne s'était jamais entendu parler. Ce qui manque le plus là-bas, c'est la bonne terre. Les propriétés vraiment fertiles coûtent aussi cher qu'en France et sont achetées comme placement de fonds par des Parisiens très riches. Les vrais colons, les pauvres, ceux qui s'exilent faute de pain, sont rejetés dans le désert où ils ne poussent rien par manque d'eau. Tout le monde le regardait. Il se sentit rougir. Monsieur Walter demanda « Vous connaissez l'Algérie, monsieur ?» Il répondit « Oui, monsieur. J'y suis resté 28 mois et j'ai séjourné dans les trois provinces. » Et brusquement, oubliant la question Morel, Norbert de Varenne l'interrogea sur un détail de mœurs qu'il tenait d'un officier. Il s'agissait du Mzab, cette étrange petite république arabe née au milieu du Sahara, dans la partie la plus desséchée de cette région brûlante. Duroy avait visité deux fois le Mzab, et il raconta les mœurs de ce singulier pays, où les gouttes d'eau ont la valeur de l'or, où chaque habitant est tenu à tous les services publics, où la probité commerciale est poussée plus loin que chez les peuples civilisés. Il parla avec une certaine verve hableuse, excité par le vin et par le désir de plaire. Il raconta des anecdotes de régiments, des traits de la vie arabe, des aventures de guerre. Il trouva même quelques mots colorés pour exprimer ces contrées jaunes et nues, interminablement désolées sous la flamme dévorante du soleil. Toutes les femmes avaient les yeux sur lui. Madame Walter murmura de sa voix lente « Vous feriez, avec vos souvenirs, une charmante série d'articles. » Alors Walter considéra le jeune homme par-dessus le verre de ses lunettes, comme il faisait pour bien voir les visages. Il regardait les plats par-dessous. Forestier saisit le moment, Mon cher patron, je vous ai parlé tantôt de M. Georges Duroy en vous demandant de me l'adjoindre pour le service des informations politiques. Depuis que Marambeau nous a quittés, je n'ai personne pour aller prendre des renseignements urgents et confidentiels. Et le journal en souffre. Le père Walter devint sérieux et releva tout à fait ses lunettes pour regarder Duroy bien en face. Puis, il dit « Il est certain que M. Duroy a un esprit original. S'il veut bien venir causer avec moi, demain à 3 heures, nous arrangerons ça. » Puis, après un silence et se tournant tout à fait vers le jeune homme, « Mais faites-nous tout de suite une petite série fantaisiste sur l'Algérie. Vous raconterez vos souvenirs et vous mêlerez à ça la question de la colonisation, comme tout à l'heure. C'est d'actualité, tout à fait d'actualité, et je suis sûr que ça plaira beaucoup à nos lecteurs. Mais dépêchez-vous. Il me faut le premier article pour demain ou après-demain, pendant qu'on discute à la chambre, afin d'amorcer le public. » Madame Walter ajouta, avec cette grâce sérieuse qu'elle mettait en tout et qui donnait un air de faveur à ses paroles. « Et vous avez un titre charmant. « Souvenir d'un chasseur d'Afrique. » N'est-ce pas, Monsieur Norbert ? Le vieux poète, arrivé tard à la renommée, détestait et redoutait les nouveaux venus. Il répondit d'un air sec. « Oui, excellent, à condition que la suite soit dans la note. Car c'est là la grande difficulté, la note juste. Ce qu'en musique, on appelle le ton. » Madame Forestier couvrait Duroy d'un regard protecteur et souriant, d'un regard de connaisseur qui semblait dire « Toi, tu arriveras. » Madame de Marelle s'était, à plusieurs reprises, tournée vers lui. Et le diamant de son oreille tremblait sans cesse, comme si la fine goutte d'eau allait se détacher et tomber. La petite fille demeurait immobile et grave, la tête baissée sur son assiette. Mais le domestique faisait le tour de la table, versant dans le verre bleu du vin de Johannisberg, et Forestier portait un toast en saluant M. Walter à la longue prospérité de la vie française. Tout le monde s'inclina vers le patron, qui souriait, et Duroy, gris de triomphe, but d'un trait. Il aurait vidé de même une barrique entière, lui semblait-il. Il aurait mangé un bœuf, étranglé un lion. Il se sentait dans les membres une vigueur surhumaine, dans l'esprit une résolution invincible et une espérance infinie. Il était chez lui, maintenant, au milieu de ses gens. Il venait d'y prendre possession, d'y conquérir sa place. Son regard se posait sur les visages avec une assurance nouvelle, et il osa, pour la première fois, adresser la parole à sa voisine. « Vous avez, madame, les plus jolies boucles d'oreilles que j'ai jamais vues. » Elle se tourna vers lui en souriant. « C'est une idée à moi de pendre des diamants comme ça, simplement au bout du fil. On dirait vraiment de la rosée, n'est-ce pas ?» Il murmura, confus de son audace et tremblant de dire une sottise. « C'est charmant. Mais l'oreille aussi fait valoir la chose. » Elle le remercia d'un regard, d'un de ces clairs regards de femme qui pénètrent jusqu'au cœur. Et comme il tournait la tête, il rencontra encore les yeux de Madame Forestier, toujours bienveillant. Mais il crut y voir une gaieté plus vive, une malice, un encouragement. Tous les hommes, maintenant, parlaient en même temps, avec des gestes et des éclats de voix. On discutait le grand projet du chemin de fer métropolitain. Le sujet ne fut épuisé qu'à la fin du dessert, chacun ayant une quantité de choses à dire sur la lenteur des communications dans Paris, les inconvénients des tramways, les ennuis des omnibus et la grossièreté des cochers de fiacres. Puis on quitta la salle à manger pour aller prendre le café. Duroy, par plaisanterie, offrit son bras à la petite fille. Elle remercia gravement et se haussa sur la pointe des pieds pour arriver à poser la main sur le coude de son voisin. En entrant dans le salon, il eut de nouveau la sensation de pénétrer dans une serre. De grands palmiers ouvraient leurs feuilles élégantes dans les quatre coins de la pièce, montaient jusqu'au plafond, puis s'élargissaient en jets d'eau. Des deux côtés de la cheminée, des caoutchoucs ronds comme des colonnes étageaient l'une sur l'autre leurs longues feuilles d'un vert sombre. Et sur le piano, deux arbustes inconnus, ronds et couverts de fleurs. L'un tout rose et l'autre tout blanc, avaient l'air de plantes factices, invraisemblable, trop belle pour être vraie. L'air était frais et pénétré d'un parfum vague, doux, qu'on aurait pu définir, dont on ne pouvait dire le nom. Et le jeune homme, plus maître de lui, considéra avec attention l'appartement. Il n'était pas grand. Rien n'attirait le regard en dehors des arbustes. Aucune couleur vive ne frappait. Mais on se sentait à son aise dedans. On se sentait tranquille, reposé. Il enveloppait doucement, il plaisait, mettait autour du corps quelque chose comme une caresse. Les murs étaient tendus avec une étoffe ancienne d'un violet passé, criblée de petites fleurs de soie jaunes, grosses comme des mouches. Des portières en drap bleu-gris, en drap de soldat, où on avait brodé quelques œillets de soie rouge, retombaient sur les portes. Et les sièges, de toutes les formes, de toutes les grandeurs, éparpillés au hasard dans l'appartement, chaises longues, fauteuils énormes ou minuscules, poufs et tabourets, étaient couverts de soie Louis XVI ou de beaux velours d'Utrecht, fond crème à dessin grenat. Prenez-vous du café, monsieur Duroy? Et madame Forestier lui tendait une tasse pleine, avec ce sourire ami qui ne quittait point sa lèvre. Oui, madame, je vous remercie. Il reçut la tasse, et comme il se penchait plein d'angoisse pour cueillir avec la pince d'argent un morceau de sucre dans le sucrier que portait la petite fille, la jeune femme lui dit à mi-voix « Faites donc votre cour à madame Walter. » Puis elle s'éloigna avant qu'il eût pu répondre un mot. Il but d'abord son café qu'il craignait de laisser tomber sur le tapis, puis, l'esprit plus libre, il chercha un moyen de se rapprocher de la femme de son nouveau directeur et d'entamer une conversation. Tout à coup, il s'aperçut qu'elle tenait à la main sa tasse vide, et comme elle se trouvait loin d'une table, elle ne savait où la poser. Il s'élança. « Permettez, madame ?»« Merci, monsieur. » Il emporta la tasse, puis il revint. « Si vous saviez, madame, quel bon moment m'a fait passer la vie française quand j'étais là-bas dans le désert. C'est vraiment le seul journal qu'on puisse lire hors de France, parce qu'il est plus littéraire, plus spirituel et moins monotone que tous les autres. On trouve de tout là-dedans. » Elle sourit avec une indifférence aimable et répondit gravement « Monsieur Walter a eu bien du mal pour créer ce type de journal qui répondait à un besoin nouveau. » Et ils se mirent à causer. Il avait la parole facile et banale, du charme dans la voix, beaucoup de grâce dans le regard et une séduction irrésistible dans la moustache. Elle s'ébouriffait sur sa lèvre, crépue, frisée, jolie, d'un blond teinté de roux avec une nuance plus pâle dans les poils hérissés des bouts. Ils parlèrent de Paris, des environs, des bords de la Seine, des villes d'eau, des plaisirs de l'été, de toutes les choses courantes sur lesquelles on peut discourir indéfiniment sans se fatiguer l'esprit. Puis, comme M. Norbert de Varennes s'approchait, un verre de liqueur à la main, Duroy s'éloigna par discrétion. Madame de Marelle, qui venait de causer avec Forestier, l'appela. « Eh bien, monsieur, » dit-elle brusquement. « Vous voulez donc tâter du journalisme ?» Alors il parla de ses projets, en termes vagues, puis recommença avec elle la conversation qu'il venait d'avoir avec Madame Walter. Mais comme il possédait mieux son sujet, il s'y montra supérieur, répétant comme de lui des choses qu'il venait d'entendre. Et sans cesse, il regardait dans les yeux sa voisine comme pour donner à ce qu'il disait un sens profond. Elle lui raconta à son tour des anecdotes, avec un entrain facile de femme qui se sait spirituelle et qui veut toujours être drôle. Et, devenant familière, elle posait la main sur son bras, baissait la voix pour dire des riens, qui prenaient ainsi un caractère d'intimité. Il s'exaltait intérieurement à frôler cette jeune femme qui s'occupait de lui. Il aurait voulu tout de suite se dévouer pour elle, la défendre, montrer ce qu'il valait. Et les retards qu'il mettait à lui répondre indiquaient la préoccupation de sa pensée. Mais tout à coup, sans raison, madame de Marelle appelait « Laurine !» et la petite fille s'en vint. « Assieds-toi là, mon enfant, tu aurais froid près de la fenêtre. » Et Duroy fut pris d'une envie folle d'embrasser la fillette, comme si quelque chose de ce baiser eût dû retourner à la mère. Il demanda d'un ton galant et paternel « Voulez-vous me permettre de vous embrasser, mademoiselle ?» L'enfant leva les yeux sur lui d'un air surpris, Madame de Marelle dit en riant « Réponds, je vais bien, monsieur, pour aujourd'hui, mais ce ne sera pas toujours comme ça. » Du roi, s'asseyant aussitôt, prit sur son genou Laurine, puis effleura des lèvres les cheveux ondés et fins de l'enfant. La mère s'étonna. « Tiens, elle ne s'est pas sauvée. C'est stupéfiant. Elle ne se laisse d'ordinaire embrasser que par les femmes. Vous êtes irrésistible, monsieur du roi. » Il rougit sans répondre, et d'un mouvement léger, il balançait la petite fille sur sa jambe. Madame Forestier s'approcha et poussant un cri d'étonnement, « Tiens, voilà Laurine apprivoisée. Quel miracle !» Jacques Rival aussi s'en venait, un cigare à la bouche, et Duroy se leva pour partir, ayant peur de gâter par quelques mots maladroits la besogne faite, son œuvre de conquête commencée. Il salua, prit et serra doucement la petite main tendue des femmes, puis secoua avec force la main des hommes. Il remarqua que celle de Jacques Rival était sèche et chaude et répondait cordialement à sa pression. Celle de Norbert de Varenne, humide et froide, et fuyait en glissant entre les doigts. Celle du père Walter, froide et molle, sans énergie, sans expression. Celle de Forestier, grasse et tiède. Son ami lui dit à mi-voix, « Demain, 3 heures, n'oublie pas. » « Oh non, ne crains rien. » Quand il se retrouva sur l'escalier, il eut envie de descendre en courant, tant sa joie était véhémente, et il s'élança, enjambant les marches deux par deux. Mais tout à coup, il aperçut dans la grande glace du second étage un monsieur pressé qui venait en gambadant à sa rencontre. Et il s'arrêta, net, honteux, comme s'il venait d'être surpris en faute. Puis il se regarda longuement, émerveillé d'être vraiment aussi joli garçon. Puis il se sourit avec complaisance. Puis, prenant congé de son image, il se salua très bas, avec cérémonie, comme on salue les grands personnages.